L'Arrêt aux pages, l'émission littéraire de Nathalie Bouly.
La dette, est-ce le mal du siècle ou tout simplement faut-il savoir s'en servir? Peu de gens sont devenus riches par le crédit. On en devient vite esclave et il fait comprendre que bien souvent c'est une façon de réduire nos libertés. Alors entre liberté et sécurité, que choisiriez-vous? Ne pourriez-vous pas obtenir les deux? Grâce à l'expérience que j'ai acquise depuis toutes ces années, mais aussi à mon savoir, ce que je vais m'atteler à faire dans cet ouvrage, c'est répondre à ces questions et vous délivrer mes conseils. Aucune bataille livrée n'a de raison, seul le vainqueur de la guerre aura le dernier mot. Qu'importe ce que vous traversez, c'est à vous et à vous seul d'en faire une force. Nous avons tous vécu cette crise sanitaire du Covid-19 de l'intérieur. Et pour la grande majorité, c'est l'inconnu et de ce fait le néant. Pourtant, qu'avez-vous tenté de changer dans votre quotidien pendant cette période? Eh bien, sachez que certains ne sont pas restés inactifs et se sont enrichis, tandis que d'autres se demandent encore comment il est possible d'agir. Ce livre est la preuve que toute période, crise ou pas crise, peut être propice à des opportunités. La plupart des affaires se réalisent dans ces moments-là et il faut être apte à prendre le virage dans de telles conjonctures. Alors, pourquoi pas vous? Je viens de vous lire la quatrième de couverture d'un livre qui porte un regard lucide et factuel sur la crise financière liée à la crise Covid, mais pas que. Son auteur est avec nous aujourd'hui sur Radio FM Plus et dans Aéropage pour vous en parler. Bonjour Nicolas Popovitch.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir dans nos studios.
Ravi d'avoir été invité, merci.
Et avant de parler du livre, on va peut-être parler un petit peu de vous, Nicolas. Vous êtes né dans le midi de la France. C'est important pour vous cette identité méditerranéenne?
Alors ça a de l'importance, oui, parce que je trouve c'est que dans le midi, on a quand même un climat qui est agréable et on a tendance aussi à avoir un avantage que moi je vois par rapport au travail, c'est qu'on a les deux extrêmes, on a des personnes qui travaillent énormément et on a des personnes qui travaillent peu. Et quand on arrive à le constater, eh bien on peut facilement se dire qu'on a des possibilités d'en tirer parti. Et j'aime beaucoup, moi, en fait, cette région. Bon, après, j'aime la France, hein, faut pas se mentir non plus, de manière générale. Maintenant, c'est vrai que j'ai vraiment baigné dans une culture d'enfance qui, je trouve, se perd un petit peu malheureusement, mais qui me laisse un souvenir impérissable.
Et c'est le choix aussi de travailler dans cette région. C'était important d'y rester, justement.
Ah, je ne me voyais pas en partir. Je fais partie de ceux qui pensent que quand on n'arrive déjà pas à évoluer là où on est, on aura du mal à évoluer ailleurs. Donc j'avais besoin de me prouver à moi-même qu'en restant où j'étais, j'avais des possibilités.
Super alors, reste. Très tôt, vous vous passionnez pour l'art, Nicolas. En autodidacte, hein, vous le dites bien, ce sont souvent, et moi je pense que ce sont souvent les autodidactes qui sont les plus passionnés, parce qu'aussi, ils restent dans l'émotion et moins dans l'analyse. Qu'est-ce qui a provoqué cette passion pour l'art?
Ah, c'est une succession hasardeuse. En fait, je dessinais au départ, je dessine toujours, j'adore dessiner. Et en dessinant, j'ai rapidement voulu faire, dans ma tête, je me disais, tu feras des dessins animés plus tard, tu feras tout ce qui touchait au cinéma. Donc le dessin, pour moi, aboutissait sur le cinéma. Et quand je me suis intéressé à tout ça, je me suis rendu compte qu'à la base, il y avait l'écriture. Mais j'étais quand même encore jeune, hein, j'étais fin du collège, début du lycée, dans ces eaux-là. Et je me suis tout de suite dit, puisque c'est l'écriture qui est à la base de tout ça, ben, je vais écrire.
Et l'art, c'était quelque chose qui était... courant dans votre famille? Enfin, je ne sais pas, est-ce que vos parents vous emmenaient dans les musées ou
Oui, alors ma mère m'amenait dans les musées, mais aussi mon père avait la passion des livres. Je pense que le cumul des deux a fait que je m'y suis intéressé. Et puis après, honnêtement, comment vous dire, c'est tout bête, mais quand on était enfant, nous, ma génération, il y avait le Club Dorothée, à faire rire certains, sur lequel il y avait quand même un sujet de société, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu des interdictions de dessins animés sur le Club Dorothée.
Bien sûr, le grand, là.
Voilà, Ken le survivant, voilà, hein, pour ceux qui auront la référence. Et je crois qu'après, quand on est enfant, c'est naturellement qu'on a envie d'aller un petit peu à l'encontre de l'autorité. Donc moi, je regardais le Club Dorothée, j'adore toujours les dessins animés, j'en regarde toujours, je suis toujours passionné par ça. Et donc, c'est naturellement que j'ai été attiré par tout ça.
Parce que vous êtes génération manga, par exemple?
Ah, complètement.
Ouais.
Ouais, ouais. Les mangas, alors je trouve qu'ils ont perdu ces quelques dernières années. Je dirais qu'il y a de ça 5-6 ans, depuis 5-6 ans, je suis moins lecteur de mangas. Je ne retrouve pas... les générations d'avant. Mais bon, c'est comme ça. Après, ça évolue, ça reviendra. Mais j'aimais aussi les BD. Je suis un grand fan de Le Droit. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est.
Oui, très bien.
Un dessinateur que je suis toujours fan, d'ailleurs, de son style. Et j'ai un défaut, ou peut-être une qualité. Je ne peux pas lire une BD ou regarder des dessins que je suis capable de faire. Il faut forcément D'accord. que l'auteur que je suis soit meilleur que moi, parce que j'ai ce besoin de me challenger. Et j'ai passé une longue période de ma vie à reproduire pour apprendre. Et Le Droit, il fait des aquarelles. Je me suis lancé dans les aquarelles. C'est injouable. C'est vraiment... il m'a toujours
impressionné. Ce goût du challenge chez vous, ce n'est pas que professionnel. C'est partout. Hein.
Ah oui. Je ne supporte pas regarder. Je ne suis pas quelqu'un qui peut regarder un match de foot. Soit je vais jouer au foot, soit je ne regarde pas.
Génération Harry Potter aussi ou pas?
Pas du tout.
Non.
Non, du tout. Je comprends l'engouement pour Harry Potter, mais moi, ça ne m'a pas touché. Pourtant, je l'ai vu passer, mais je n'ai pas été touché par Harry Potter.
Et on parle du manga. Moi, je suis arrivée au manga par le roman graphique, et notamment par les films de Miyazaki.
Je suis grand fan de Miyazaki.
Grand dingue de ça.
Je viens d'aller voir le héron.
J'adore ça. Quoi. Je crois que c'est le tombeau des Lucioles. Enfin, l'histoire avec les Lucioles, je crois que je pleure à chaque fois.
C'est pas à Miyazaki, je crois, celui-là.
Ah, c'est pas à Miyazaki.
Non,
monsieur connaisseur.
Ah, oui, je suis un grand fan.
Faut pas que je les raconte. Hein. D'ailleurs, ce talent d'écrivain, cette envie d'écrire, vous la découvrez chez vous tôt, à 16 ans. Vous commencez à écrire un premier manuscrit qui fait plus de 1000 pages. Alors même, voilà. Maintenant 1800.
1800, il est fini, oui. Qui sortira un jour, mais il faut que je m'y attelle. En fait, j'étais dans une école catholique religieuse. J'ai aucun problème avec la religion, mais il m'est sorti de la tête une idée saugrenue. Je me suis dit, et c'était un blasphème, c'était pas possible de l'écrire, mais c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, et si en fait, tel que c'était livré, donc la Bible, les religions de manière générale, en réalité, c'était l'inverse. C'est-à-dire que le Dieu auquel on nous incite à croire, en fait, n'est pas un Dieu bienveillant. Et le Satan qui a été banni serait en fait la personne à suivre. Et tout le roman tourne autour de ça, mais dans un monde complètement créé. Parce que comme je suis dans une école religieuse, je respecte quand même la religion. Et
Surtout qu'ici, vous avez une radio protestante.
Oui, vous m'avez dit. et puis en plus, je suis croyant. Donc ce n'est pas vraiment dans le but de blasphémer, c'est vraiment dans le but de dire, imaginons un autre univers dans une conjoncture où justement les personnes qui prêchent ne sont pas celles qui sont là pour notre...
C'est une uchronie complète, c'est vraiment c'est noir. C'est noir où il y a quand même de l'espoir en l'être
humain. C'est manga.
D'accord. Non, parce que bon, manga, enfin, pareil, on parlait du manga, mais moi, un des chefs-d'œuvre du manga, c'est Akira pour moi. Akira, c'est vraiment l'uchronie noir. Il n'y a pas beaucoup d'espoir dans Akira.
Ah oui, je suis d'accord. Akira, j'adore aussi. Mais très particulier quand même.
C'est très particulier.
C'est pas tout le monde qui peut apprécier ça.
C'est très particulier, même dans le dessin. Hein, je veux dire, c'est très particulier.
Par exemple, j'adore. Ouais. Cette singularité de dessin, j'adore.
Après, bon, il y a tout dans le manga. Il y a tout, évidemment, les mangas plutôt garçons, les shoujo, le shonen, etc. Tous ces. Moi, mes filles, elles y sont arrivées par j'aime les sushis, par les trucs pour nénettes. Voilà. Parce qu'il y a quand même des. Ah, vous aimez bien j'aime les sushis.
Mais j'allais vous dire, moi j'aime bien Food War par exemple, qui est un manga sur la nourriture et j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Donc vraiment, j'aime tous les mangas en fait, de manière générale.
Mais c'est vrai qu'Akira, je l'ai découvert en plus en grand format, je ne l'ai pas découvert en petit.
J'aime aussi les BD françaises. Hein, Astérix, Obélix. Voilà.
Ce qui est traditionnel, plus traditionnel.
Ah oui, tout à fait.
Et puis on va arriver à l'âge adulte quand même, Nicolas. Donc que vous réalisez votre rêve et que vous lancez dans l'aventure et le défi de l'écriture et vous y accédez à travers votre métier. Puisque quand vous vous mettez à écrire et que vous éditez, c'est pour parler de votre métier qui est un métier passion. Vous nous en dites plus sur ce métier passion?
Alors moi je me considère avant tout comme investisseur. Et après autour de ce métier d'investisseur, j'ai développé des activités qui sont autour de ma passion, effectivement. Donc l'investissement, ça veut dire qu'on achète des biens immobiliers qu'on loue, et c'est ce qui m'a permis de faire de l'écriture, de faire des contenus sur Internet, etc. Parce que j'avais ces revenus à côté qui me permettaient de ne pas avoir cette pression financière et qui m'a laissé un choix. Donc c'est vrai qu'après, je rêvais d'écrire, et le plus simple pour moi, ce n'était pas de me dire... Il y a beaucoup de gens qui, je pense, se ferment en se disant « je veux écrire de la fantasy », ce qui, au départ, serait peut-être mon aspiration profonde. Mais au lieu de me dire « pour l'instant, je ne peux pas le faire et je suis bloqué et j'attends », je me suis dit « tu as envie d'écrire, donc écris des livres sur ta passion ». Déjà, c'est une expérience et c'est honnêtement, ça me fait beaucoup de bien parce que je vois le travail qu'il y a derrière et ça me fait prendre conscience que pour revenir, par exemple, sur l'ouvrage de fantasy, il va falloir vraiment s'y poser et travailler. Quoi, voilà.
C'est facile en ce moment d'être investisseur immobilier. Enfin, je sais pas quand on voit quand on regarde les infos, juste Nicolas, hein, pas plus. C'est si vous êtes pas squatté, vous pouvez pas louer parce que vous êtes en F. Quand vous pouvez pas louer parce que vous êtes en F, vous pouvez pas louer. Oui, parce que de toute façon, les impôts fonciers, eux, continuent pendant qu'il n'y a plus d'impôts locaux. J'ai l'impression que notre ami le président, en ce moment, il ne rend pas la vie des propriétaires facile. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une impression?
Non, alors, il y a du vrai, il y a du faux. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, il y a des lois un petit peu restrictives en ce moment. Moi, j'ai une phrase que j'aime répéter tout le temps. Les immeubles restent, les gouvernements et les locataires passent. C'est malheureux, c'est pas péjoratif, mais c'est une réalité. Dans ce que vous dites, il y a du vrai, c'est-à-dire que l'activité transactionnelle française actuellement passe une grave crise liée à peu près tout ce que vous venez de dire. Maintenant, en tant qu'investisseur, acheter des passoires thermiques, c'est la chose la plus intelligente à faire actuellement. Mmh. Il y a des énormes affaires à faire et il y a
un marché qui est là. Tout à rénover.
Bien sûr. Mmh. Bien sûr, c'est une opportunité.
Comment vous y êtes arrivé à ce métier passion? Parce que donc, c'est l'investissement d'abord et l'immobilier après vous...
Non, en fait, c'est très simple. Ma mère, mes parents sont séparés. Ils ont eu une très grosse faillite. La suite de cette faillite a abouti sur des dettes pour ma mère. On a eu une vie à un moment donné séparée. D'ailleurs, moi, j'étais à Montpellier pendant que ma mère, elle était à Nîmes. Mon histoire de vie a fait que j'ai été maçon, qu'après j'ai été agent immobilier puis courtier en prêt. Je n'avais pas spécialement d'argent. Et en fait, mon premier achat immobilier que j'ai voulu faire, je l'ai fait en me disant « tu vas acheter, rénover avec ton ancien patron et revendre plus cher ». Au moment où je vais pour acheter un bien, ma mère veut elle aussi acheter un bien. Du coup, on se dit « on se met ensemble », mais elle avait des dettes. On achète un premier bien et on le revend plus cher. J'ai pas de problème avec mes chiffres parce que j'en parle partout. La première achat qu'on fait, on l'achète 55 000 euros, on le revend 120 000 euros. On n'a rien fait dedans, à part réfléchir. Mmh. Et j'ai gagné, impôt payé, 39 000 euros dans ma poche. J'avais jamais gagné autant d'argent de toute ma vie. J'avais 23 ans à l'époque.
Et pas d'études particulières pour ça, Nicolas?
Non. Je suis pas apte à. Mon mode de fonctionnement n'est pas très adapté à l'éducation nationale. On m'a fait arrêter l'école en seconde. Ma mère m'a obligé à passer le bac en candidat libre. Je l'ai eu. Bon, j'ai pas de.
Oui, non.
Voilà, c'est mon histoire.
Histoire intéressante, justement, pour en arriver là. Et en plus, pour les auditeurs qui vont découvrir ce que vous mettez dans le livre. Vous vous dites des fois autodidacte dans l'art, mais vous êtes aussi autodidacte. Vous n'avez pas fait Sciences Po, c'est ça ce que je veux dire.
Non,
voilà, vous n'avez pas fait non plus des études en économie pendant 5 ans. Or, vous avez quand même une analyse et une construction qui est très pointue et très pertinente.
Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, tout le monde a accès à la connaissance. Mmh. C'est qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre pour s'informer et se former?
Alors on parle de celui-ci, on va en parler, de survivre à une crise financière, c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Mais il y en a eu deux autres avant.
Il y en a deux autres avant.
Voilà. Ouais. Celui que j'ai dans les mains, qui est devenir riche sans argent. Et puis celui juste avant.
Alors celui juste avant, c'est un livre sur les SCI, c'est les secrets de la SCI. Nous, on a acheté notre patrimoine en SCI. La SCI a permis à ma mère de ne pas se faire saisir au tribunal puisqu'elle avait des dettes. Et donc, ça, c'est ce qui nous a sauvés. Et pour moi, c'était un petit peu... J'ai commencé par ce livre symboliquement parce que nous, sans les SCI, on n'aurait rien... Ça a été vraiment notre joker, quoi.
Cette envie de partager justement ce que vous apprenez, des fois le partager, bon, c'est des fois en étant provocateur, hein, c'est pas non plus une partie de votre personnalité. C'est essentiel pour vous justement de pas garder ces bonnes pratiques et d'en faire profiter les lecteurs, les gens que vous rencontrez, de ce partage.
Je suis comme tout le monde. Au départ, ça n'a pas été facile. On se dit. Tu vas donner des bonnes astuces et du coup, elles ne seront plus pour toi. Ce qui est intéressant dans ce processus, c'est que quand vous donnez des bonnes astuces, vous devez en trouver des nouvelles. Donc du coup, on évolue. Donc on se rend compte qu'en fait, finalement, en partageant, on évolue vachement. C'est une idée, je pense que c'est une idée qu'on a tous, de se dire je vais donner et du coup, je perds. C'est aussi culturel, je crois. En France, on dit gagner de l'argent alors qu'on fait de l'argent. Mais bon, bref, c'est des détails. Et en fait, on se rend compte quand on le pratique que non, ça ne marche pas comme ça. Et qu'effectivement, en partageant, on y gagne aussi. C'est vraiment un échange. Et oui, après, la source de tout ça, c'est quoi? Moi, quand j'ai commencé, personne ne m'a aidé. C'était extrêmement difficile. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Et honnêtement, j'ai perdu beaucoup de temps. Mais vraiment beaucoup. Et je souhaite ça à personne. Parce que la perte de temps, c'est ce qu'il y a de pire.
C'est vrai qu'on n'a pas donné votre âge, Nicolas.
Je vais avoir 42 ans. J'en ai 41 encore.
Encore jeune.
J'ai l'impression, oui.
Nicolas, on va marquer notre première pause musicale et vous avez choisi pour nous Clara Luciani nue. Pourquoi ce choix?
Parce que familialement, on aime tous cette musique. Ouais. Et comme ma famille, c'est important, j'ai fait un choix familial. Je leur ai demandé d'ailleurs, je leur ai dit laquelle je mets en premier. Donc on a choisi familialement. On est tous tombés d'accord sur cette...
Et celle-là particulièrement?
Ah, mais moi je l'adore celle-là.
C'est moi, je l'ai connue par La Grenade.
Ah, moi c'est pas... Moi, mais après, il y avait... En fait, je l'ai connue par celle avec la musique avec sa sœur, mais je l'ai compris qu'après en fait. Et j'aimais encore plus celle avec sa sœur, mais là vraiment, tous les trois, ma fille, ma femme et moi, on aime... cette chanson de Clara Luciani. Voilà.
C'est une artiste très intéressante. On écoute et puis on se retrouve pour parler de survivre à une crise financière.
Je rêve, pense-moi pour voir seule, celle dont j'ai l'air. Souvent je chante.
Regarde-moi, regarde-moi, tu vois. J'ai enlevé mes bijoux, t'es maquillé de noir à mes yeux. Ôter le rose à mes joues et je viens nu vers toi. Oh oh, ôter le rose à mes joues et je viens nu vers toi. Oh oh, ôter le rose à mes joues et je viens nu vers toi.
Pleureuse italienne, ou un bon petit, mon bon petit soldat, comment tu me préfères? Mon héroïne ou un blessé de guerre, cette vie que j'habite parfois me dépasse, parfois est trop petite. Peur que ma chance me quitte, je cours partout, je m'ennuie vite.
Mais il faut lire, ça sert à ça.
Et voilà, on est en pleine discussion. On est en pleine discussion. Vous êtes toujours sur Radio FM+, voilà, dans Aéropage, avec Nicolas Popovic. Hein, voilà, on discute hors antenne et ça s'entend. Nicolas, on va tourner les pages du livre maintenant ensemble. Le livre s'ouvre sur une dédicace et puis un avant-propos et un avertissement. On parle des trois. La dédicace est déjà aux deux personnes avec qui vous avez écrit le livre. C'est pas, vous ne l'avez pas vraiment écrit hein, quand même avec eux. Et puis... Vous le dédiez surtout à tous ceux qui veulent profiter des crises pour en sortir renforcés quand la majorité est à genoux. C'était important pour vous de faire cette dédicace justement qui insuffle dès la première page une énergie positive par rapport à...
C'est très important parce qu'on est un pays qui est déjà beaucoup dans la critique et beaucoup, je trouve, dans l'inaction. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est ce que je pense. Et je pense qu'il faut arrêter à un moment donné de se plaindre. Et que c'est sûr que plus on se plaint, c'est des cercles pour moi la vie. Soit c'est un cercle vicieux, soit c'est un cercle vertueux. Plus on est inactif, plus ce sera difficile de casser ce cercle. Et plus on est actif, plus ce sera simple. Et oui, c'était important parce que j'aimerais que les gens comprennent qu'à un moment donné, oui, il y a des crises, il y en aura toujours. Les gens parlent toujours de l'ascenseur social, il est où ? Ben, il est là. Voilà, pour moi, il y a un énorme ascenseur social dans les crises, vraiment. Mmh. Et à un moment donné, au lieu de toujours chercher des excuses, cherchons des raisons.
Ça peut être des opportunités plutôt.
Ah mais c'est des opportunités, c'est des opportunités fabuleuses les crises. Mmh. Voilà, il faut les voir, il faut le voir.
Dans l'avant-propos, vous précisez justement hein, que vous voulez juste partager votre vision, que vous n'êtes ni économiste, ni psychologue, hein, vous le dites clairement, et je dirais même... sociologue, parce qu'il y a une grande partie de sociologie dans votre livre quand même, hein. Mais bien un investisseur qui souhaite partager son vécu. Mettre comme ça, dès la deuxième page, les points sur les i, que vous ne soyez pas usurpateur, hein, le syndrome de l'imposteur, voilà, vous n'êtes pas un imposteur, vous êtes un investisseur, et vous, en aucun cas, vous ne donnez des solutions économique, mais juste vous parler de vous. C'est important de le préciser très vite.
Ah, c'est très important. Il faut bien comprendre que je pense que, et je le dis aussi dans le livre, je le constate tous les jours, le monde et l'économie se complexifient. Et je pense aujourd'hui que c'est très difficile de se prétendre expert. Alors on peut l'être dans un domaine très précis, ça je peux l'entendre, Mais pour moi, c'était important que les gens comprennent qu'on peut avoir un avis général sur une situation, avoir des solutions, les proposer, tout en restant à la place à laquelle on se trouve.
Et est-ce que vous avez eu des retours d'économistes de formation ? Des gens qui l'ont lu, alors, qui sont économistes de formation et qui vous ont dit « c'est incroyable, Nicolas
C'est ma grande déception.
Vous n'avez pas eu ?
Ben, en fait, je vais tout vous dire, moi je n'ai pas de problème à parler de ça. Je voulais, en fait, dans les co-auteurs du livre, j'ai demandé à des économistes, ils ont tous refusé, parce que je sais pourquoi, ils ont mal pris le passage sur les experts, parce que je dis qu'aujourd'hui, et je le pense, que malheureusement, dans les années 80, vous aviez un économiste qui arrivait, il vous disait « il va se passer ça », c'était parole d'évangile et on le suivait. Aujourd'hui, on le voit très bien, il peut y avoir une crise, je vous dis une bêtise, mais dans le commerce, comme on l'a vu là par exemple avec Camailleux qui fait faillite, et pour autant un magasin sur internet qui vend des milliers d'articles et qui lui va très bien. Donc c'est vrai que je trouve aujourd'hui que les économistes ont un avis qui a une valeur, mais relative. Donc ils ont personne n'a voulu, j'ai demandé à des économistes de participer au livre, et je leur ai dit, surtout n'hésitez pas à me contredire et à avoir un avis opposé, ils ont tous refusé.
Et il y en a qui vous ont fait des retours dessus ou ils ne l'ont même pas lu ?
Ils l'ont lu puisque moi, donc vous avez vu dans le livre que ma mère a participé au livre, elle m'a beaucoup aidé puisqu'elle comprenait pas l'économie, ça m'a permis de la vulgariser au travers de son regard. Et elle suit certains des économistes que j'ai contactés par rapport à elle, puisqu'elle suit des économistes. Et elle m'a dit ton livre, ils l'ont forcément lu parce qu'il y a des mots qui disent qui viennent de ton livre en fait. Donc je sais qu'ils l'ont lu, mais et qu'il les a dérangés. Mais c'est pas grave parce que
déjà les économistes, il y a deux écoles entre les économistes de gauche dit les économistes atterrés et puis bon voilà qui disent qu'il faut tout ouvrir et puis ceux de droite qui disent que rien n'est possible, que la dette, si entre ceux qui disent que la dette, il faut s'asseoir dessus, et ceux qui disent que surtout, il ne faut pas dépasser les 3% du PIB, là, je ne sais pas trop non plus. Mais c'est difficile aussi d'avoir une vision aujourd'hui d'un économiste neutre. Il n'y en a pas.
Pour moi, c'est très simple. Je vais vous répondre. Premièrement, il faut comprendre ce qu'il vend. Est-ce qu'il vend des livres ? Est-ce qu'il vend des assurances vie ? Est-ce qu'il vend des placements ? Et deuxièmement, est-ce que cet économiste vous fait passer à l'action ? Et c'est ce que... Pas je leur reproche, mais c'est ce qui me dérange dans cette affaire, c'est que vous avez beaucoup d'économistes alarmistes, de manière générale. Cet alarmisme rend les gens peureux et les font stagner avec de l'épargne sur des comptes, qui est finalement la pire des configurations et le pire des choix. C'est la raison de mon livre. C'est que je supporte plus de voir ça, de voir des personnes qui me disent « j'ai tant sur mes comptes, qu'est-ce que je fais ?» Déjà, tu les laisses pas là, quoi. C'est la pire des décisions financières à prendre.
Et ça, en France, on est spécialiste. D'ailleurs, c'est tombé ce matin que les gens enlèvent du livret A qui rapporte que 3% pour tout mettre dans le livret social qui en rapporte 6. Cette obsession, je crois qu'on a un taux d'épargne en France absolument délirant par rapport aux autres pays d'Europe. Et puis, en même temps, on est aussi le pays le plus aidé.
Oui, et puis, il faut quand même que vous l'ajoutiez aussi, on est le pays qui donne le moins. C'est le pays où on donne le moins aux aides caritatives. Donc il y a quand même des questions à se poser. Les gens sont surpris des écarts entre les personnes qui ont de l'argent et les personnes qui soi-disant n'en ont pas, mais en fait ils ont de l'argent qu'ils regardent sur des comptes. Tout est là en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, depuis 1971 que les États-Unis ont supprimé le dollar, enfin le fait que le dollar soit convertible en or, le monde est passé dans un monde de la dette. La dette fait partie de notre monde. Bon, on l'accepte, on l'accepte pas, c'est tout un débat. Moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Le fait est que si vous gardez de l'argent sur vos comptes, vous perdez de l'argent parce qu'il y a des gens comme moi qui, eux, font des crédits. Donc, les gens qui s'endettent comme moi, pendant que toutes les autres personnes autour gardent l'argent sur leur compte, c'est ceux-là qui sont les perdants.
Argent qui ne leur apporte pas grand-chose, en plus.
Mais rien. Parce que vous trouvez aujourd'hui facilement, sur n'importe quel produit financier, des rendements plus intéressants au travers d'un placement que vous auriez éventuellement choisi, dans la mesure où vous l'avez choisi. C'est ça qui est important.
Et que vous le comprenez.
Exactement.
Et puis, troisième partie, il y a aussi un avertissement qui nous demande une chose, d'être clairvoyant. Pas de généralité, mais une nécessité d'adaptation et surtout un rappel que la richesse, c'est différent pour chacun. Il y a des gens qui qui se sentent riches à 3 000 euros, puis des gens qui se sentent riches à 10 000. Voilà. Chacun a sa définition propre de ses besoins. Il y a des fois aussi de savoir juste que, on n'aura pas emprunté pour finir le mois. mais voilà, qu'on peut commencer le mois et finir le mois et avoir sa machine à laver qui tombe en panne sans que ça soit
une contrainte
ou un stress. C'est ça, la richesse ?
Pour moi, la richesse, c'est le choix. Si vous n'avez pas le choix dans votre vie, c'est que vous n'êtes pas riche. Tant que vous avez du choix, c'est que vous êtes riche. Donc l'argent, c'est juste un moyen d'avoir du choix. Vous venez de le dire. Si vous changez de machine à laver, que vous n'avez pas le choix, que vous devez prendre la moins chère, vous n'êtes pas riche.
Voilà.
Si vous choisissez celle que vous voulez, c'est que vous avez de l'argent.
C'est juste ça qui est important. Et puis c'est dans ce même avertissement que vous nous dites avoir survécu à 5 crises financières en 17-18 ans, c'est ça Nicolas?
Oui, c'est ça. Il y a à peu près... après, il y a, il y a celle de 92 que j'ai vécue au travers de mes parents. La bulle Internet, le SRAS-CoV-2.
Oui, alors moi, je me souvenais, c'est ça, je me souvenais bien de la bulle Internet parce qu'il y avait, je me rappelle, c'est pas un site, hein, c'était une start-up. Il y a eu la mode des start-up et je me rappelle d'un nom qui s'appelait Caramel.
Oui, Caramel, qui avait été racheté.
Oui, ouais, qui était le frère de la ministre, d'ailleurs, de Sarkozy, de l'écologie. Kosciusko-Morizet, je me rappelle. Et puis, alors, il y en a une où vous n'étiez pas né, mais la première crise, vraiment, moi, c'est 74, c'est la première crise du pétrole.
Oui, le premier choc pétrolier, bien sûr. J'en parle dans le livre. Hein, ouais, parle. C'est une crise importante.
Et ça a été important parce que mes parents ont acheté une maison à ce moment-là. Et entre le moment où ils ont signé en 73 et le moment où le devis a été fait pour les travaux, la pierre, le ciment, enfin tout avait triplé. Voilà. Donc celle-là, je m'en souvenais. Mais là, dans celle que vous avez vécue et qu'on a vécue ensemble, c'est, je me rappelais de la bulle Internet, voilà, de l'explosion, et puis de les subprimes. Parce que les subprimes, c'était aussi... alors là, on tombe dans la sociologie. Tous les reportages à la télé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais des maisons, des Américains qui étaient virés de leur maison, etc. Bien sûr. Alors, lesquels les autres qu'on a zappés ou que j'ai zappés ?
Moi, la plus ironique, je trouve, c'est le SRAS-CoV-2 en 2003, celle dont personne n'a jamais entendu parler, qui est finalement une crise qui ressemble énormément à celle du Covid, qui a quand même touché 32 pays, et pour laquelle, de façon très amusante, je trouve, la plupart des gens, donc, non seulement n'en ont jamais entendu parler, mais ils ont vécu normalement leur vie pendant cette période-là.
C'est pas la même où Bachelot avait commandé les vaccins, c'est pas celle-là ?
Non,
c'est
ça, c'est lié à autre chose. Mais cette crise, vous n'en avez pas entendu parler ?
Non, pas du tout.
Et en fait, elle a été étouffée, elle a quand même coûté des milliards, donc il y a quand même pas mal de... Quand on en prend connaissance, on se rend compte qu'elle a existé, mais qu'elle a été étouffée. Et ce qui est assez ironique, je trouve, c'est que toute personne qui va lire ce passage va se dire, mais effectivement, à ce moment-là, moi, j'ai vécu normalement. Donc ça vous montre qu'à un moment donné, il peut y avoir des crises et que pour vous puissiez ne pas avoir d'impact du tout.
Mais moi, 2008, je m'en rappelle bien. Hein, bon, pourtant, c'était une crise importante, le subprime. Mais moi, je n'ai pas eu l'impression, à part la télé qui était en boucle, en alarmisme. Moi, perso, ça ne m'a pas spécialement touché dans ma vie quotidienne. Hein.
Ça fait écho au début du livre. Ouais. Ça vous montre que finalement, les crises, c'est devenu quelque chose de très étrange. Regardez le Covid, donc la dernière qu'on a vécue. Tous ceux qui avaient des activités Internet ont explosé. Ils en sont arrivés même au point où ils ont dû arrêter Amazon parce que ça devenait indécent.
Bien sûr.
Donc c'est là où on voit vraiment que l'économie, elle est en train de se fragmenter. On est en train tous de vivre dans des réalités différentes. Et malheureusement, et ça c'est une tristesse, en fonction de la réalité dans laquelle on est, ben on est touché de plein fouet ou on passe au travers complètement.
Mais ça, enfin, moi je travaillais dans le commerce et je l'ai senti parce que je me rappelle dans les années 2000 avoir quelqu'un qui, quand je refusais, parce que bon, rappelez-vous, mais en 2000 on prenait la carte bleue pour 15 euros. Hein, en dessous c'était pas possible parce que bon, les banques se sucraient aussi. Hein, et un mec m'avait dit, un client m'avait dit, vous refusez la monétique de l'avenir. C'est sûr que je refusais. D'abord c'était pas moi qui la refusais, c'était ma boîte, mais bon. Tant que ça nous touche pas directement, c'est formidable Internet.
C'est toujours comme ça.
Tout d'un coup, voilà, c'est pas Internet en lui-même, hein, mais quand l'utilisation d'Internet influe sur votre quotidien, voire vous fait perdre votre boulot, moi j'ai été touchée de plein fouet par une évolution Internet.
Hein. C'est le cas de Uber. Mm. Uber, les gens ont regardé ça expectatif parce qu'ils n'étaient pas taxis. Ça les a pas plus que ça touchés, mais les taxiteurs, eux, étaient très en colère. Et pour autant, ils ont trouvé un terrain d'entente. Alors, je ne suis pas dans les taxis, je ne vais pas me prétendre expert de ce domaine, mais aujourd'hui, ils coexistent.
Parce que Uber a énormément augmenté ses prix. Je vois à Paris, par exemple, je faisais centre-ville du 17e pour 8 euros. Maintenant, c'est quasiment le même prix que les taxis.
C'est ça, c'est le même prix aujourd'hui que les taxis, je suis d'accord avec vous. Mais ils sont rentables depuis pas longtemps.
Mais
ils sont arrivés à leur point de rentabilité. Donc maintenant, la prise du marché, elle est faite. Donc maintenant, on paye quoi.
Et après, par exemple, je ne comptais pas parler de ça, mais c'est intéressant aussi parce que c'est d'actualité. Mais ce qui touche aujourd'hui Airbnb, notamment avec... cette possibilité de squat, parce qu'on en parle beaucoup de ça, ça peut toucher. Parce que ça, alors au niveau sociologique, et c'est ça qui est très intéressant dans le livre, c'est que souvent vous ramenez à l'humain, mais une politique comme les Airbnb à Paris, j'ai jamais su le dire, Nicolas.
Oui, c'est pas grave, il n'y a pas de problème.
Mais ça change aussi une ville.
C'est 5% de la ville. Il faut arrêter avec cet argument, il n'a aucune valeur. Ce n'est pas 5% de la ville qui fait la ville. Enfin, le problème de Paris, c'est que, je ne sais pas si c'est connu ou pas, c'est que vous avez énormément de gens qui font du stock foncier dessus ou même des habitations secondaires. En France, les gens...
Qui ne sont pas habités, vous voulez dire,
mais oui, c'est ça. Vides. Mais les gens achètent en France, puis ils n'y vivent pas. Vous avez énormément d'arrondissements à Paris. Vous avez des étrangers qui ont des résidences secondaires à Paris, des professionnels aussi. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui vivent dans le sud et qui vont travailler à Paris. Ils ont un logement à Paris. Donc, si vous voulez, c'est certain que... Et leur logement, il n'est pas sur Airbnb en attendant. Donc tous ces logements qui ne sont pas occupés à temps plein, en France, on a un système où tout est centralisé sur Paris. On a les résultats de ce système. Si à un moment donné on voulait que ça change, bah décentraliser, inciter les sociétés à s'installer ailleurs. Et vous aurez plus tous ces appartements occupés, inoccupés, pardon.
Alors après le livre, on va voir comment il est un peu construit. Il commence donc par, il est en quatre parties hein, principales, et la première partie s'ouvre sur la notion de vie financière. Avant de parler de crise, on va parler de la vie financière. Comment vous y êtes arrivé à vous y intéresser? Alors on en a un peu parlé quand on a fait votre portrait, mais à comprendre, parce que c'est quand même compliqué, c'est des heures et des heures de lecture, c'est comment vous avez fait?
Ouais, c'est un constat de mon entourage. J'ai une femme, j'ai des amis, et je vois comment ils gèrent leur vie financière, et ça me catastrophe. C'est comme si vous me disiez, je veux perdre du poids, mais je ne me pèse jamais, et je ne contrôle jamais ce que je mange. Et je crois qu'à un moment donné, les gens veulent un résultat, mais ne font rien pour l'obtenir. Donc d'observation de départ, c'est-à-dire... mon entourage se comporte d'une certaine manière. J'en suis arrivé à faire des recherches et à des conclusions qui sont ce que vous savez déjà. C'est
oui,
que,
oui.
Voilà, on a tous une vie financière. Et c'est quelque chose qu'on partage tous dans le monde. Hein, c'est très
oui,
important
oui,
de
tous,
le dire.
Oui.
C'est vraiment universel. C'est-à-dire que l'argent, dans n'importe quel pays du monde, on en a tous. Et malheureusement, on a tous des comportements différents avec notre argent, certes, mais des comportements qui ne sont pas les comportements qui nous permettent d'avoir des résultats.
Et puis vous choisissez, c'est ce qui rend aussi la lecture du livre facile. Je tiens à le dire vraiment que ce n'est pas du tout un pincem économique. C'est vraiment un livre que vous avez écrit justement pour qu'il soit agréable à lire. Et tout le temps, vous posant des questions, vous nous posez des questions. Voilà.
Toujours.
Tout le temps, dans le livre est truffé de questions. Et là, par exemple, tout d'abord, savez-vous que les deux principales raisons des divorces sont le travail et l'argent, quand ce ne sont pas les deux? Alors pourquoi? C'est-à-dire que c'est des petites questions qu'on se pose nous au quotidien, que vous vous posez aussi.
Ah mais moi j'ai une réponse, après c'est la mienne,
ouais.
Chacun a la sienne. Mais regardez, vous manquez d'argent, vous achetez une maison à rénover, vous vous installez dedans et vous vous dites on va la rénover pendant qu'on habite dedans, la pire idée du monde.
Ah oui.
Et ça finit comment?
Eh ben, divorce.
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 Et tout ça pourquoi? Pas parce qu'on a choisi la mauvaise maison, parce qu'on n'a pas d'argent. Et vous voyez, et c'est comme ça que ça se fait naturellement, les gens font des... C'est malheureux parce que je comprends la réflexion qui consisterait à dire j'aurais pas dû acheter cette maison, mais c'est pas vraiment ça. C'est j'aurais dû d'abord me concentrer sur mes finances pour avoir les moyens de faire les travaux.
Et c'est aussi une partie très intéressante dans ce livre, c'est que vous parlez d'argent et en définitive ce dont vous parlez tout de suite et ce que vous traitez tout de suite, c'est nous. C'est la psychologie humaine, c'est nous face à l'argent. Avant de parler d'argent, vous parlez d'abord de nous face à l'argent. Et le premier chapitre, c'est ça, c'est psychologie humaine, état d'esprit, niveau d'influence et d'obéissance. Et alors là, vous traitez de plusieurs...
De quatre études.
Exactement. Comment vous les avez connues, ces quatre études, Nicolas?
Je lis beaucoup. Je lis beaucoup de livres, je les connaissais. Je pense que ces quatre... De mon opinion, ces quatre études, elles résument tout ce qu'on a besoin de savoir et de comprendre sur la psychologie humaine par rapport à l'argent. C'est très important de le préciser. Moi, mon sujet, c'est l'argent.
Mmh.
Et après, quand on met ces études sur les finances, on comprend les comportements humains. Sachant que la quatrième étude... Je l'ai appelée l'étude de Lucifer, mais bon, elle a plusieurs noms. Elle est très particulière, parce que pour moi, c'est un contre-exemple, parce qu'elle illustre parfaitement, finalement, des problématiques qu'on retrouve en politique, qu'on retrouve dans tous les niveaux de la société, c'est-à-dire le fait que l'être humain est gouverné par ses intérêts. Puisque la personne qui mène l'étude, pour son intérêt de scientifique, on va dire qu'elle a un peu pipé les dés, quoi. Je vais le dire comme ça.
Et c'est marrant, parce que moi, je suis intéressée à beaucoup d'études sur le management, puisque c'est ce que j'ai fait pendant 40 ans. Et il y a des fois des choses qui se recoupent entre les deux. Hein. C'est vraiment très intéressant. Et puis, il y a tellement de choses abordées dans le livre qu'on ne peut pas parler de tout. Il y a quand même une chose que j'aimerais vraiment que vous définissiez pour nos auditeurs, c'est qu'est-ce que c'est une crise ? Selon vous, est-ce que c'est toujours lié à la spéculation comme en 1929? Est-ce que une fois la crise arrivée, la spéculation commence, comme par exemple peut-être un petit peu pendant le Covid, hein, l'idée du profiteur de guerre, c'est pas que pendant les guerres, hein, les crises c'est des mini-guerres quand même. Non? Je suis excessive?
Non, j'entends, après je pense que ça dépend, je pense que c'est très dépendant de la crise de laquelle on parle. Le fond du aujourd'hui, plus le temps passe, plus l'élément qui pour moi était grave pendant le Covid, qui a été passé même pas sous silence, mais qui a paru anodin à beaucoup de gens, le fait que le pétrole, il y a un moment donné où on a donné le pétrole pendant le Covid, hein, plus personne n'en voulait, chose qui n'est pas censée arriver. Je pense que cet élément-là, que beaucoup de gens n'ont pas matérialisé, a généré énormément de problèmes derrière, alors que ça a été insignifiant par rapport à la crise sanitaire. Mais pour répondre à votre question, donc la définition que vous trouverez partout, c'est que c'est lorsque un actif, ou en tout cas une classe d'investissement, perd 30% de sa valeur. Maintenant, quand vous avez vécu le Covid, on parle d'une crise sanitaire, il n'y a pas de notion de perte de valeur. Mais pourtant, il y a bien une crise. Donc pour moi, une crise, c'est dès l'instant qu'il y a une modification d'une réalité. Donc c'est très large, j'en suis désolé, mais on reprend les subprimes, vous avez eu une modification de la réalité immobilière qui a été réellement assez violente, qui n'a pas touché certaines tranches de la société. Puis vous allez avoir, comme le Covid, une modification d'un quotidien. Il y avait des confinements, enfin des gens qui étaient confinés. Donc moi, aujourd'hui, dès qu'il y a une modification importante d'une réalité, je considère qu'il y a une crise.
Après, pendant des siècles, et c'est vrai qu'on a la chance, hein, vous, moi, Rija et Yann, qui sont de l'autre côté de la vitre, de vivre quand même dans une période depuis 1945 où le monde occidental n'est pas frappé directement par une guerre. Mais avant, il y avait une chose qui résolvait les crises, c'était les guerres, où les guerres provoquaient des crises. Mais il y avait aussi l'économie repartait souvent après les guerres, parce qu'il y avait l'économie de reconstruction.
Oui, mais la guerre est une chose et la crise en est une autre. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Le problème de la guerre, il est encore autre. La guerre, c'est une désentente sur un sujet. Donc ça, encore, c'est encore un autre problème.
Mais après, c'est vrai qu'au niveau économique, on repart souvent après dans des...
Mais après une crise, c'est pareil.
Exactement.
Après une crise, c'est pareil, si vous regardez bien.
Et c'est aussi dans cette première partie que vous abordez, Nicolas Popovitch, évidemment, les systèmes monétaires et le crédit. Alors, question d'une naïve, c'est bon ou c'est pas bon, crédit?
C'est très simple à comprendre. Il y a deux manières de l'aborder pour que ce soit compréhensible par tous. Premièrement, il y a le bon et le mauvais crédit. Comment on les identifie? C'est très simple. Tout ce que vous consommez, si vous l'achetez à crédit, vous perdez de l'argent. Donc ça veut dire, vous utilisez votre voiture, vous avez fait un crédit pour l'acheter, c'est mal acheté. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aimer ce que je vais dire, hein, mais vous utilisez votre maison, vous avez fait un crédit pour aller dedans, vous l'avez mal acheté. Tout ce qui vous rapporte de l'argent, si vous faites un crédit, vous l'avez bien acheté. Il y a une autre manière de le dire qui est encore plus simple. Tout ce qui a un taux de crédit supérieur à l'inflation, c'est un mauvais crédit. C'est aussi simple que ça. À chaque fois que vous faites un crédit dont le taux est inférieur à l'inflation, vous gagnez de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, vous faites des crédits pour combattre... En ce moment, il y a une inflation. Combien vous avez fait de crédits l'année dernière?
Moi, je n'ai pas fait.
Ben voilà. Donc, vous avez perdu de l'argent. Moi, j'en ai fait deux. Chaque année, moi, je fais des crédits. Alors, j'aurais voulu en faire trois, mais l'année a été compliquée. Donc, chaque année, vous devez regarder combien vous faites de crédit pour combattre l'inflation. Si vous n'en faites pas, vous perdez de l'argent. Et pendant que vous ne faites pas de crédit, moi, j'en fais. Donc, moi, j'en gagne et vous en perdez.
D'accord. Je sors du studio de faire un crédit. Dans la deuxième partie, Nicolas...
Attention, hein, avec le taux sous l'inflation.
Oui, j'ai bien compris.
Parce que si vous allez faire un crédit conso,
j'ai dit, tout faux, là.
Ça n'a pas été compris.
Dans la deuxième partie, vous analysez plus précisément les cinq crises majeures dont on a déjà parlé, mais surtout vous témoignez, et j'aurais, si vous pouvez nous lire juste le début là, de la page 137 jusqu'au mot argentien. Voilà.
Allez, je vous le lis.
Vous comprendrez pourquoi je vous ai fait lire
ça. J'ai vécu cette crise comme une véritable catastrophe. En effet, mon activité a été touchée de plein fouet à ce moment-là. Je venais d'achever un très gros chantier en tant que marchand de biens et ma queue de programme n'a pu trouver acquéreur. M'attendant à un choc, j'ai donc immédiatement réduit mes finances. J'avais de graves problèmes en perspective et j'en étais omnibulé. L'incertitude et le stress d'une telle situation, sans entamer mon humeur, ont toutefois complètement changé mon rapport à l'argent.
Voilà, c'est ça, c'est que vous avez aussi... Le livre est aussi écrit à travers votre filtre personnel et avec cette chose, moi, que j'adore, c'est-à-dire que il n'y a pas d'échec, voilà. On se reconstruit après l'échec, on redémarre après l'échec. Que l'échec n'est jamais une fin en soi. S'il y a des gens qui disent « j'ai foiré, donc j'arrête », là, vous repartez à chaque fois.
Mais c'est l'erreur, c'est d'arrêter. Ouais. L'échec, c'est l'arrêt. Le jeu, c'est de jamais s'arrêter.
Troisième partie, alors là, on parle de l'économie et de la politique. Vaste sujet, hein. Comme il nous reste 3 minutes pour parler de la troisième partie, on va, voilà. Mais évidemment quand même que sur l'argent et sur la crise, les politiques aujourd'hui, normalement, devraient avoir une action. Est-ce qu'ils sont encore actifs ou est-ce qu'en définitive, c'est encore les GAFA qui mènent le monde et puis les politiques n'ont plus grand-chose à faire?
Vous avez lu mon livre, je crois ni à l'un ni à l'autre. Ouais. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, on a une classe politique qui a été éduquée dans un monde en croissance. On est dans un monde en décroissance. C'est facile de comprendre que c'est comme si vous demandiez à une personne qui parlait chinois de venir diriger la France, il y aurait une certaine latence. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a une classe politique qui n'est pas du tout adaptée à ce qui se passe, et qui font ce qu'on leur a appris, et qu'après, on pourrait polémiquer sur ce sujet pendant des heures. ils font des choses. Malheureusement, c'est pas ce qu'il faut faire.
Non, mais ça explique aussi l'intérêt de votre livre, c'est-à-dire que c'est vrai que les classes de mômes, ils ont 25 ans, pour moi c'est des mômes, enfin de jeunes gens qui sortent, qui de Sciences Po, qui de l'ENA, avec des normes comme ça, et qui justement ont des fois été éduqués et suivis par des profs qui ont connu, qui ont l'âge d'être d'être issu de ce monde où tout était possible, où il n'y avait pas de crise, où il n'y avait pas de décroissance, où on allait. C'est peut-être ça qui, des fois, les rend décalés. Alors que vous, voilà, vous êtes sur le terrain depuis 20 ans.
C'est ce que je reproche au système éducatif. C'est-à-dire que vous avez des profs qui n'ont jamais travaillé, qui vous expliquent comment aller travailler. Il y a déjà un problème à la base. Et si on va plus loin que ça, nos hommes politiques n'ont jamais, eux aussi, travaillé. Donc vous avez toute une classe de gens qui n'ont jamais travaillé, qui réfléchissent entre eux comment faire travailler des gens sans qu'eux n'aient jamais travaillé. Ça ne peut pas fonctionner.
C'est un gros problème. Et c'est ça qui est bien dans le livre. C'est que, voilà, il y a toutes ces visions-là. La quatrième partie, vous ne l'avez pas confiée, mais comment ça s'est passé, ce rapport avec François Denis et...
Alors François Denis...
Et Luca Di Fernandino.
Alors Luca Di Fernandino, c'est le hasard de la vie. J'ai un patrimoine et il se trouve que je l'ai rencontré au travers de ce que nous on propose des logements. Donc il occupe un de nos logements. Et en parlant avec lui, je me suis rendu compte, j'étais assez surpris de ses activités. On a discuté, on a sympathisé. Je lui ai proposé, il a accepté de participer. Alors, pour que les gens comprennent, je vais faire très simple. C'est un trader. Je vais dire les choses très simplement. C'est plus complexe que ça, mais vous m'excuserez, c'est pour la compréhension de tous. Quant à François Denis, c'est un ami qui est de Montpellier. À chaque fois, il m'en veut parce que ma façon de le présenter n'est pas la bonne. Mais il a monté une société qui travaille dans les bitcoins et il travaille dans la crypto-monnaie de manière large. Il n'est pas que dans le bitcoin, il est dans la crypto-monnaie. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer les crypto-monnaies. Il y a un risque qu'on ne peut pas mesurer, mais que cette technologie soit modifiée, disparaisse, évolue d'un côté ou de l'autre. Mais pour moi, ce que représente la crypto-monnaie, ça vient en opposition avec ce que font nos gouvernements et je me devais d'en parler parce que, juste pour rappel, donc nous, aujourd'hui, on est dans un système où il n'y a pas de contrôle de la monnaie. La monnaie, elle est diffusée sans limite. Et le concept des crypto-monnaies, c'est de dire il y a une limite. Il va y avoir tant de pièces et il n'y en aura pas plus. Donc ça s'oppose. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Après, moi, je ne suis pas là pour débattre de ça. Je suis là pour vous montrer qu'il existe plein de supports et donc des professionnels comme François Denis qui l'expliquent mieux que moi. Et je voulais qu'il soit là pour que le lecteur... Parce que je ne suis pas parole d'évangile, moi.
C'est
la démarche de mon livre. Moi, je veux que le lecteur ressorte de là avec sa propre réflexion et qu'il prenne ses propres décisions.
On va marquer notre deuxième pause musicale. Alors là, vous allez nous faire découvrir. Vous m'avez fait découvrir quelque chose et vous allez faire découvrir peut-être aux auditeurs. Alors, je voudrais pas... Brand 23000 ?
C'est ça, Brand 23000.
Renshine ?
Renshine.
Renshine, on écoute Renshine.
No, I think I'm okay.
take it out. It's a natural fact. Judge, I have got judgment according to all your work. And if you're
Rebonjour sur Radio FM Plus et vous êtes toujours dans Aéropage avec Yann à la technique et avec comme invité Nicolas Popovitch. Nicolas, il nous reste 3 minutes pour conclure, un peu plus de 3 minutes. Vous finissez le livre, votre conclusion c'est l'investissement n'est pas une science mais une philosophie. Je pense que c'est vraiment le message qu'on a essayé de faire passer ce matin.
Oui, mais c'est ouais, ça, je le pense profondément.
Je voulais juste aborder un tout petit point, c'est qu'écrire, c'est une chose, se faire éditer, c'en est une autre. Votre maison d'édition, c'est Mad Jack, c'est oui. Vous-même, c'est quelqu'un.
C'est moi-même.
Se faire éditer, c'est compliqué.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est moi qui n'ai pas voulu.
D'accord.
Voilà, j'avais la possibilité, mais j'ai fait ce choix. J'ai préféré gérer le process de A à Z parce que aujourd'hui, le monde a changé. Et on a des opportunités différentes. Et je ne dis pas, les maisons d'édition sont très utiles pour les personnes qui n'ont pas d'expérience dans le livre et dans tout ça. Il se trouve que nous, on en a. Et les ressources que j'avais me permettaient de le faire. Et je pense que vous n'avez pas vu que c'était moi la maison d'édition.
Non, j'ai pas vu.
Vous n'avez aucun moyen de ça. Mais je le comprends.
Mais bon, pour moi, c'est important aussi de relier. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, il y avait 7% des auteurs qui étaient auto-édités et qu'on en est à 36 en 10 ans.
Ah oui, bien sûr.
Et que même aujourd'hui, dans les prix littéraires, il y a des gens qui sont auto-édités.
Bien sûr.
Et que, par exemple, Joël Dicker qui a fait un succès littéraire avec l'affaire Henri Kébert, a quitté sa maison d'édition pour se mettre en auto-édition.
Bien sûr, bien sûr.
Donc je pense que le modèle de maison d'édition qui date de l'après-guerre, voilà, ça aussi, il va y avoir une crise.
Alors non, je ne pense pas. Malheureusement, je vais vous expliquer pourquoi. Les maisons d'édition qui ne vont pas être capables de faire du marketing mourront. Celles qui vont savoir le faire resteront.
Et puis dernière question pour la petite minute qui reste. Alors on a parlé crise, on a parlé d'écrire sur la crise. Vous l'avez juste un petit peu effleuré, mais est-ce que vous seriez tenté d'écrire dans un autre genre littéraire, complètement différent?
C'est déjà le cas. Mon prochain livre sera un roman. Financier, mais un roman. Parce que j'ai réalisé que les histoires étaient intemporelles et que faire passer le même message au travers d'un héros qui va avoir des tribulations, parce que je suis en train de l'écrire, je suis en plein dedans, donc je voudrais que le roman soit fini fin 2024, et ça, je pense que ça sera le cas, j'ai déjà écrit la moitié, donc j'ai un peu d'avance, et j'aimerais vraiment au travers d'une histoire, d'un héros qui a des problèmes financiers comme tout le monde, et j'en rigole parce que j'ai ces tribulations en tête, donc je suis en train de les écrire, et je trouve que c'est encore mieux, parce que là du coup, je peux carrément lui donner des habitudes que je vois chez des personnes autour de moi, à leur insu d'ailleurs, malheureusement, et il y aura plein de gens qui vont s'y identifier, ça sera encore même mieux, parce que du coup là...
Donc, ça sera un roman à clé en plus.
Non, ça sera un roman, alors à clé pour mes proches,
oui.
Pour ceux qui vont le lire s'ils le lisent, bien sûr.
Mais pas pour moi.
Mais voilà, pas pour vous. Les gens qui vont lire ça vont le lire en passant un bon moment et en se disant « Ah mince, mais je l'ai fait moi aussi cette erreur et peut-être qu'il va falloir que je la change ».
Eh bien, merci beaucoup Nicolas Popovitch. Et puis cette confidence de fin d'émission fait qu'on pourra avoir un autre rendez-vous pour parler de romans.
Avec grand plaisir.
Merci Nicolas Popovitch. Donc je rappelle, Survivre à une crise financière aux éditions Mad Jack. Si vous tapez Nicolas Popovitch, comme je l'ai fait sur le net, vous aurez plein de renseignements sur lui, sur sa carrière, sur ses livres. Et puis, ils sont tous disponibles sur Internet.
Partout. La FNAC, voilà. Cultura, voilà. Amazon.
Ils sont diffusés. Voilà. Il n'y a pas de problème. Et je mettrai bien sûr les coordonnées sur le podcast. Merci beaucoup. Bonne journée. À la semaine prochaine. Au revoir, Nicolas Popovitch.
Merci. Au revoir.
L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly pour FM+.